France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, qu'est-ce qu'on pouvait faire si on avait à résoudre un problème du genre « Est-ce que je peux couper cet arbre ? Les dieux seront-ils contents que je le fasse ? Est-ce que je peux devenir l'ami de tel ou tel ?» Prendre le bateau, aller m'installer à l'étranger en franchissant un bras de mer plutôt agité. Ou si je suis le roi de Perse, est-ce que je peux briser l'alliance que j'ai conclue avec les Grecs et les attaquer ? Le meilleur moyen de le savoir était d'aller directement voir un dieu chez lui et de lui poser la question. Si on prenait la peine de faire le voyage jusqu'à la maison du dieu, si on faisait une belle offrande et si on savait l'interroger comme il faut, selon les règles, normalement, il répondait.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Le dieu ne sera pas présent. Dieux et déesses s'abstenaient en général de fréquenter les mortels, ces êtres inférieurs, tellement différents d'eux. On ne pourra pas le voir, mais il écoutera, il répondra. Il ne le fera pas directement, les dieux ne s'abaissent pas à faire la conversation avec de simples mortels. Il faudra passer par des intermédiaires, des prêtres ou des prêtresses qui proclameront la parole du dieu, dans un langage plus ou moins clair, et puis on repartira chez soi, plus ou moins satisfait.
Zeus, roi de tous les dieux de la Grèce, écris dans les cendres afin que je puisse lire l'avenir. Je vois un grand arbre aux confins du monde. Et à ses branches sont accrochés le crâne et la peau d'un bélier. Il luise et scintille, car c'est un présent des dieux.
L'heure n'est pas aux devinettes ou aux mystères. Parle-moi de ce soir.
Souvent, le dieu répondait, mais pas vraiment à la question posée. On pouvait avoir l'impression que le dieu faisait exprès, pour s'amuser, de répondre à côté. Un dieu, c'est puissant, souverain. Il ne va pas facilement se plier aux demandes, aux exigences d'un simple mortel. Et puis, un dieu sait tout, ou presque. Quand on vient lui poser une question, le dieu ne se contente pas de savoir la réponse. Il sait aussi pourquoi on lui a posé la question. Il comprend l'individu qui vient le voir. Il devine son histoire passée et future. Et ce que le dieu va révéler peut concerner cette histoire dans son ensemble, que l'individu ignore, et pas seulement le problème posé. Les dieux, c'est un peu comme notre inconscient. Ils connaissent tous les secrets de notre existence, et en plus, mieux que l'inconscient. Ils savent même comment cette existence doit finir.
En tant que prêtresse d'Apollon, il m'appartient de tout te dire, afin qu'agissant en connaissance de cause, tu prennes sur toi l'entière responsabilité de ce que tu vas faire. J'ai donc interrogé l'oracle pour savoir de quelle manière calmer la colère des dieux.
Parfois, le destin d'une personne pouvait être lié à un défaut physique, sans que la personne ne le sache. Le défaut n'était alors pas une faiblesse, mais au contraire, la marque d'un destin exceptionnel. Le dieu qu'on allait consulter remarquait ce signe et savait l'interpréter. Ainsi, on raconte qu'un jeune homme, dont la voix était malingre, qui était bègue, qui bafouillait, était allé voir Apollon dans son temple de Delphes pour demander au dieu comment se débarrasser de son handicap. Cet homme avait comme nom ou comme surnom Bathos, ce qui veut dire le bègue. Bégayer, balbutier, en grec ancien se dit batarizein. Ce Bathos a formulé sa question à Apollon en bredouillant. Pour le dieu, c'était un signe évident qui disait toute l'histoire en réalité fabuleuse de ce questionneur. Apollon a daigné lui répondre par l'intermédiaire de sa prêtresse, mais complètement à côté en apparence. La prêtresse a dit à Bathos qu'il devait fonder une ville au loin, en Afrique.
Bathos, tu es venu pour ta voix, mais le seigneur Phoibos Apollon t'envoie en Libye, nourricière de brebis, pour que tu y fondes une colonie.
Pourquoi la Libye ? Pourquoi l'exil et cette colonie à fonder ? L'historien qui raconte l'histoire au 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote, essaye de comprendre cette bizarrerie. Selon lui, Apollon aurait joué entre plusieurs langues. Bathos, qui en grec signale le bégaiement, a un tout autre sens dans la langue que parlent les gens de Libye. Chez eux, Bathos signifie « roi ». Bathos, le bègue grec, était donc prédestiné à devenir roi en Libye. Le dieu n'aurait fait que développer le double sens du mot « bathos ». Ce mot, si on sait l'entendre en plusieurs langues, signifiait ce passage de la Grèce à la Libye, la nécessité pour cet homme qui bégaye de quitter la Grèce et d'aller régner en Afrique. Le jeune homme n'a évidemment pas compris la réponse de la prêtresse d'Apollon. Il a insisté à répéter sa question, mais la prêtresse n'a pas été plus explicite. Hérodote commente la scène.
C'est comme si elle avait dit, usant de la langue grecque,
« Ô roi, tu es venu pour ta voix. » Lui répondit en ces termes.
« Seigneur, je suis venu vers toi pour te consulter au sujet de ma voix. Et toi, tu me réponds en parlant d'autre chose, de choses impossibles. Tu m'ordonnes de coloniser la Libye. Avec quelles ressources ? Avec quelles troupes ?»
Il eut beau dire, il ne put obtenir que la prêtresse lui fît une autre réponse. Et comme elle lui répétait la même prophétie qu'auparavant, Bathos quitta les lieux au beau milieu de la consultation.
Ce départ était très impoli, très impie. Bathos n'a pas obéi à Apollon. Il est retourné chez lui. Il n'avait aucune envie de quitter la Grèce. Mal lui en a pris. Un malheur saisit toute sa communauté d'origine, lequel, cela n'est pas précisé. On consulte à nouveau Apollon, qui dit qu'il faut absolument partir pour la Libye. Bathos et ses compagnons s'embarquent, mais ils n'arrivent pas à s'installer en Libye. Ils reviennent chez eux. Les gens de leur communauté les repoussent en leur jetant des pierres. Ces gens tiennent à ce qu'enfin Bathos obéisse à Apollon. Bathos repart vers la Libye et se contente de s'arrêter pendant 2 ans sur une île, face aux côtes africaines. La vie n'y est pas terrible. Rien ne marche vraiment. On consulte à nouveau le dieu à Delphes. Apollon n'est pas content du tout. Il réordonne de s'implanter vraiment en Libye. Bathos, cette fois, obéit et fonde la ville de Cyrène, dans ce qui s'appellera la Cyrénaïque. Il y sera roi pendant 40 ans. Ça a été laborieux. On ne désobéit pas facilement aux dieux. Comment a fait le dieu pour ne pas répondre à la question sur le bégaiement et envoyer Bathos en Afrique ? Il est parti d'un simple nom et en a fait la marque d'un destin. Il y était d'autant plus amené qu'un handicap, comme le bégaiement ou le fait de boiter, d'être aveugle, pouvait traditionnellement être pris comme un signe divin, une marque d'élection. Bathos le bègue portait le stigmate d'un destin remarquable, un destin royal, loin des Grecs, lui qui bégayait dans sa langue. Il devait accomplir son destin au loin et devenir un roi très célèbre. Les dieux qu'on allait consulter avaient ce pouvoir. Ils voyaient un signe du destin là où les humains ne voyaient qu'un simple fait, comme le bégaiement ou la stérilité. Beaucoup consultaient le dieu pour savoir si enfin ils auraient un enfant. Les humains venaient parce qu'ils avaient un problème précis à régler, bien présent. Et le dieu voyait les choses autrement. Il voyait plus loin. Il se détachait de la préoccupation présente et voyait dans ce que tout le monde avait sous les yeux un signe annonçant le futur. Le destin à venir de quelqu'un ou d'une ville ne pouvait pas rester entièrement secret, caché. Il avait laissé une trace dans le présent. Il fallait la repérer. C'est ce que savait faire le dieu. Une fois que le dieu avait rattaché ce signe présent au destin de celui qui l'interrogeait, il créait lui-même un autre signe, sa réponse, sa prophétie. Pour les humains, ce signe divin qu'ils obtenaient en allant consulter n'était la plupart du temps pas évident. Il fallait savoir interpréter. Bathos, d'abord, est surpris par ce que lui dit la prophétesse. Il ne comprend rien et s'en va.
La divination, c'est l'ensemble des arts et des techniques qui permettent, grâce auxquelles l'homme croit pouvoir trouver dans des signes extérieurs l'annonce d'événements futurs ou quelquefois aussi des indications sur le présent extérieur à lui-même.
Raymond Bloch, historien.
C'est en somme un monde très vaste qui touche de près à la religion. Ça correspond à une tendance profonde de la nature humaine. Essayer de savoir plus que nous ne pouvons savoir, étant donné à chaque époque le niveau scientifique que nous possédons. Aller au-delà.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Pierre Judet de Lacombe parle des arbres fabuleux de Dodone, les chênes parleurs qui révèlent les pensées de Zeus.
Nom de Zeus !
Les signes émis par les dieux étaient de toutes sortes. Ce pouvaient être des sons, des voix, des proférations, des délires, des fèves jetées au sol, des marques qui apparaissaient sur des organes d'animaux solennellement sacrifiés. Toutes sortes de signes qui demandaient qu'on possède une science très solide pour en tirer du sens et répondre à la question qui a été posée aux dieux. Des intermédiaires savants se chargeaient de ce travail et traduisaient ces signes bizarres envoyés par le dieu en messages audibles aux consultants. Le résultat pouvait être obscur. Au moins, en repartant chez soi, on savait qu'on avait un destin. La réponse du dieu, même si on n'en comprenait pas tout le sens, indiquait que l'avenir a une direction. On savait qu'il y avait quelque chose à comprendre, à expérimenter, jusqu'à ce que le destin vous tombe clairement dessus. La vie, au moins, avait un sens. Les signes par lesquels les dieux annonçaient les destins des humains étaient souvent très bizarres. Un des lieux les plus fameux où on pouvait écouter un dieu était Dodone, Dodonais, au nord de la Grèce, dans la région qui s'appelle Épire, près de la ville actuelle de Ioannina. On y entendait Zeus, le dieu suprême, et on venait de partout le consulter, de la région, de la Grèce et de l'étranger. On dit que c'est le plus ancien sanctuaire prophétique de la Grèce. Il aurait été fondé avant l'autre sanctuaire très célèbre, celui d'Apollon à Delphes. Zeus s'y exprimait dans une langue étrange. Il faisait parler un arbre très célèbre, un chêne. Pas n'importe lequel, un chêne nourricier, fécond, à gland comestible. En grec, phagos, le chêne Vélani, ou Vélaned, arbre qui peut prendre des dimensions gigantesques. Dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles, un chêne Vélani, passé pour avoir abrité 100 chevaliers et leurs chevaux. Le bois de ce chêne savait parler. On raconte que lors de la construction du navire Argo, qui devait conduire Jason et ses compagnons à la conquête de la Toison d'Or, loin, en mer Noire, la déesse Athéna avait pris soin d'insérer dans la coque une poutre en bois de chêne de Dodone. Cette poutre devait, en parlant, guider les navigateurs. L'expédition était très périlleuse et Athéna voulait absolument qu'elle réussisse et que l'esprit de Zeus, présent dans le bois de la poutre, puisse être tout le temps à bord du navire. On disait de la nef Argo qu'elle était bavarde.
Adeline Grand-Clément, historienne.
Alors pourquoi le chêne ? C'est vraiment un arbre qui est lié à Zeus, parce que c'est considéré un peu comme le roi des arbres. Zeus est un peu le roi des dieux, donc il y a une correspondance. Le chêne, c'est Zeus. Donc ça, c'est un peu logique. Pourquoi à Dodone ? C'est Grèce du Nord-Ouest, c'est un lieu où il y a beaucoup de tempêtes, de gros phénomènes atmosphériques, donc peut-être que c'est un lieu qui a été compris comme un lieu de manifestation de Zeus. C'est lui qui amène les tempêtes, qui rassemble les nuages, d'accord, etc. Donc c'est aussi une explication, mais on n'a pas trouver de réponses certaines. Hein. Nous, concrètement, on a un peu du mal à comprendre ce qui s'est joué autour de ce sanctuaire.
Selon l'épopée qui raconte le voyage des Argonautes, c'est cette poutre qui donne le signal du départ.
Mais quand l'éclatante aurore de ses yeux brillants regarda vers les cimes élevées du Pélion, tandis que par le vent agité, la mer, en signe de beau temps, battait les promontoires, Tiphys, le navigateur, se réveilla. Aussitôt, il pressa ses compagnons d'embarquer sur le navire et de disposer les rames. Tout à coup, un cri terrible jaillit du port de Pagase et d'Argo elle-même, enfant du Pélion. En effet, dans la nef était enfoncée une poutre divine qu'Athéna avait tirée d'un chêne de Dodone pour l'ajouter au milieu de l'étrave. Les héros montés sur les bancs, l'un derrière l'autre, chacun à la place que leur sort leur avait attribuée pour ramer, s'assirent en bon ordre près de leurs armes.
La poutre sera très utile aux Argonautes sur la route de leur retour. Ils reviennent avec la toison d'or et la magicienne Médée, devenue la femme de Jason. Le frère de Médée, un dénommé Apsyrtos, est une menace. Les Argonautes, par précaution, décident de le tuer. La poutre se rebelle, hurle et leur ordonne d'aller chez une autre magicienne, Circé, se faire purifier de leur meurtre.
Et voici que tout à coup, au milieu de leur course, retentit une clameur humaine, celle de la poutre parlante du navire qu'Athéna avait tiré d'un chêne de Dodone pour l'ajuster au milieu de l'étrave. Une crainte mortelle les saisit pendant qu'ils entendaient la voix et le lourd courroux de Zeus. Elle leur disait qu'ils n'échapperaient ni au danger de la mer immense, ni aux terribles tempêtes, si Circé ne les purifiait du meurtre cruel d'Apsyrtos. Ainsi clama Argo au crépuscule.
Là, il fallait obéir. C'était pratique d'avoir un morceau de chêne de Dodone avec soi pendant son voyage. Mieux qu'un GPS, il transmettait les consignes de Zeus de manière tonitruante. Sur place, à Dodone, là où poussaient les chênes fabuleux, c'était aussi étonnant. Le lieu, sous une montagne, n'était pas clément. Les hivers étaient rudes et les gens de la région étaient étranges. Ils semblaient vivre hors civilisation. Homère en parle dans l'Iliade, à un moment clé, qui va décider de tout. Achille a enfin pitié des Grecs qui se font massacrer à cause de son absence. Il permet à son grand ami Patrocle de prendre les armes pour défendre le camp des Grecs que les Troyens ont envahi. Tout va basculer. Avant de laisser Patrocle partir au combat, Achille fait une prière solennelle à Zeus, en lui demandant de protéger son compagnon. Le Zeus qu'Achille décide de prier n'est pas du tout le Zeus attendu, celui à qui les Grecs ont offert tant de sacrifices. De manière tout à fait surprenante, Achille prie le Zeus de Dodone, un Zeus lointain, exotique, hors du monde civilisé, un dieu surprenant aux limites sauvages de la Grèce. Achille prend une coupe très belle, une coupe où lui seul pouvait boire. Il la lave. Puis, l'ayant rempli de vin, il fait une libation en s'adressant à Zeus. Jusque-là, rien que du normal. La prière, elle, est surprenante.
Là était pour lui une coupe ouvragée. Aucun autre humain n'y buvait le vin couleur de feu. Et à aucun autre dieu il n'en versait de libation, qu'à Zeus, le père. Il la prit dans le coffre et la purifia avec du soufre tout d'abord. Puis, dans la belle eau d'un flot, il la lava et se lava les mains. Il puisa le vin couleur de feu. Puis, debout, au milieu de l'enceinte, il priait et versait le vin, les yeux au ciel. Zeus, qui se plaît à la foudre, ne l'ignora pas.
Seigneur Zeus de Dodone, le Pélasgique qui habite loin, qui règne sur Dodone et ses mauvais hivers, où tout autour habitent les Séloïs, tes interprètes, qui ne lavent pas leurs pieds, qui dorment à terre.
À ce Zeus bizarre, Achille demande deux choses. Qu'il aide Patrocle à chasser les Troyens du camp des Grecs. Cela, Zeus va l'accorder. Et Achille demande aussi à Zeus qu'il ramène Patrocle vivant de ce combat. Cela, Zeus le refuse. Zeus va faire que Patrocle soit tué par Hector, le prince troyen. Achille nous apprend dans sa prière qu'à Dodone, les prêtres de Zeus dorment à même le sol, sans même un matelas de feuilles. Leurs pieds ne sont jamais débarrassés de la poussière. Ces prêtres sont en contact direct et permanent, jour comme nuit, avec la terre, comme l'arbre qu'ils servent, bien enraciné. Cet arbre, porte-parole de Zeus, le dieu de la foudre, des mouvements du ciel, relie les extrêmes, le terrien profond avec ses racines, et le ciel. Les prêtres, bien terrestres, qui ne se lavent pas les pieds, transmettent aux humains, ces habitants de la terre, les volontés du dieu suprême, du dieu d'en haut.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Why should I smile? Why should I smile for you? Voice once sublime, now whistles sour tunes. I had no time for cheap words, table wine. I have no time for thin saris from a swine. Why should I smile? Why should I smile for you? Tongue once divine, tasting foul since June. I have no space for double faces on my dime. I have no grace for former lovers in my crimes. Another day without you. I'm better off without you. Another day without you. I carry on without you. Why should I smile? Why should I smile for you? Action so vile. Speak clear and loud of you. I pay no mind to your begging and your pleas. I pay no mind even though you're on your knees. Another day without you. I'm better off without you. Another day.
Pierre Judet de la Combe raconte comment Zeus répond aux humains qui questionnent le chêne de Dodone.
Je suis un devin. Il me faudrait un animal pour lire dans ses entrailles.
On pourrait essayer avec un sanglier rôti.
Avec ce qui reste de celui-là, il n'y a plus grand-chose à lire. Mais le chien, là, pourrait servir.
Le premier qui touche à Idéfix se ramasse une baffe.
Tant pis. Vous ne pourrez pas connaître les intentions des dieux.
Moi, j'ai un poisson.
Un poisson? Oui, ça peut être très lisible.
Comment Zeus s'exprimait-il? Par quels intermédiaires? Ce n'est pas très clair. Au départ, ce sont les arbres qui parlent, comme la poutre de la nef Argo. Eschyle, le poète tragique, évoque les paroles que la princesse Io, que Zeus convoite avec emprise, a entendues alors qu'elle passait à Dodone. Zeus ne s'est pas gêné et a profité de sa capacité de faire parler les arbres pour lui faire savoir très clairement ce qu'il voulait d'elle.
Quand tu as abordé la terre de Molossie, près de l'escarpement de Dodone, où le Zeus de Thesprotie a son oracle et son trône, et il y a ce prodige incroyable, les arbres qui parlent aux gens, en toute clarté, sans énigme. Ils t'ont appelé la grande épouse de Zeus, sa nouvelle promise. Quelle caresse, n'est-ce pas, dans ces mots?
Qu'est-ce que ça veut dire, des chaînes qui parlent? La question intriguait beaucoup les Grecs. Il ne s'agit pas de bruits confus, de craquements du bois ou du bruissement des feuilles. Les textes anciens n'évoquent jamais de telles expériences. Face à la jeune princesse Io, poursuivie par l'amour de Zeus, les chaînes de Zeus ont parlé très clairement, sans ambiguïté. En fait, on ne sait pas comment ça se passait. Ce n'est pas que le secret ait été bien gardé. Il n'y avait là aucun mystère. Tout était évident et accepté, sinon les gens ne seraient pas venus en foule pendant des siècles interroger le grand arbre de Zeus. C'est que les Grecs croyaient, comme allant de soi, que ce qu'ils entendaient quand ils venaient consulter Zeus à Dodone avait bien été dit par cet arbre sacré. La preuve, les gens venaient encore et encore à Dodone. Ils n'écoutaient pas les arbres, mais ce que les prêtres et les prêtresses leur disaient. Parce qu'ils croyaient que ces intermédiaires exprimaient vraiment la vie de Zeus. Ils n'avaient aucune raison d'en douter. Ces intermédiaires pouvaient prendre plusieurs formes. Sophocle, le poète tragique, raconte comment le grand héros Héraclès voulait à tout prix savoir quand allait s'arrêter sa souffrance, l'obligation où il était d'accomplir sans cesse des travaux épuisants pour un cousin qu'il méprisait, mais qui avait pouvoir sur lui. Héraclès va interroger son père, Zeus, dans son sanctuaire de Dodone. Il consulte le chêne, qui parle beaucoup, et inscrit ce que le dieu lui dit sur une tablette, qu'il garde précieusement. Zeus lui dit qu'au jour précis où il raconterait cette histoire, il serait délivré.
Quand je suis entré dans le bois sacré des Séloïs, ces montagnards qui couchent sur le sol, j'ai inscrit les paroles de l'éloquent chêne paternel. Il disait qu'en ce jour où nous sommes à présent, je serai enfin délivré de mes pénibles travaux.
L'oracle était ambigu. Héraclès croyait que le chêne de Zeus lui annonçait le bonheur après 12 années de travaux. En fait, il annonçait sa mort ce jour-là. La mort est en effet une délivrance. L'oracle a mis fin à la vie d'Héraclès, qui est mort ce jour-là. Comment le chêne a-t-il parlé à Héraclès? Dans un autre passage de la même tragédie, les chênes ne parlent pas directement, mais par l'intermédiaire de colombes, Péléiades, en fait des pigeons migrateurs, des pigeons bisés. Ce sont des oiseaux, en bougeant, en chantant, qui auraient transmis la réponse du chêne.
Il expliquait que tel était le sort fixé par les dieux pour mettre fin aux travaux d'Héraclès. Comme le vieux chêne de Dodone, un jour, l'avait prédit par la voix des deux colombes.
Ces pigeons, ou colombes, ont toute une histoire. On a beaucoup brodé dessus. On a dit que deux colombes noires étaient parties du sanctuaire de Zeus en Égypte. L'une serait allée vers la Libye, l'autre vers la Grèce, vers Dodone. Elle se serait posée sur un chêne, puis se serait adressée aux gens du pays.
Celle-ci aurait déclaré avec une voix humaine qu'il fallait qu'on établît à cet endroit un oracle de Zeus. Eux auraient estimé que l'ordre qui leur avait été donné venait d'un dieu et, dans cette pensée, l'aurait exécuté.
L'historien qui raconte cette légende, Hérodote, n'en croit pas un mot. Les colombes étaient en fait, selon lui, des femmes égyptiennes, prêtresses de Zeus. Elles auraient été enlevées par des marins phéniciens. L'une d'elles fut vendue en Grèce. Se souvenant de ce qu'elle faisait en Égypte, elle fonda l'oracle de Zeus, à Dodone. Les Grecs l'appelèrent Colombe, car elle avait gardé son accent égyptien et son langage était pareil au chant des oiseaux. Un autre savant plus tardif dit aussi qu'il n'y a jamais eu aucune colombe. Dans la langue du coin, les gens appellent les vieilles femmes « Peleiai ». C'est le même mot que pour les colombes. Il ne s'agissait pas d'oiseaux, mais de vieilles servantes du temple. Les savants inventent, font de la broderie. Ils sont intrigués. Mais une chose reste inébranlable. Les consultations du dieu continuent. On y croit. La visite à Dodone permet une expérience plutôt stupéfiante, unique. On attend la parole de Zeus. Elle vient. Mais elle passe par de nombreux intermédiaires. Le chêne, les oiseaux, les prêtresses qui annoncent la réponse du dieu. On peut difficilement imaginer plus d'intermédiaires. On fait l'expérience, avec cette accumulation de relais entre le dieu et soi, de l'absence du dieu, qui ne se manifeste qu'à travers toutes ces étapes. Cela nous rappelle notre mortalité, notre distance infinie par rapport au dieu. Mais en même temps, le rituel précis, connu, de la consultation fait vivre l'expérience inverse. Comme on sait que c'est le dieu qui parle, l'écart entre ces intermédiaires s'efface. C'est bien le dieu qui s'est prononcé, même si on ne sait pas comment. Et tout cela grâce à un chêne fascinant, extraordinaire, qui rassemble tout, qui efface les différences, puisqu'on dit qu'il parle. Il est au centre de l'expérience. Il exerce un immense pouvoir d'attraction. Il est unique. Grâce à ce chêne célèbre, vénéré, on peut vivre en même temps l'écart le plus grand avec le dieu et la fusion la plus heureuse. Ça devait valoir la peine.
Ô Zeus, le plus puissant des dieux, nous t'implorons, nous demandons ton aide. Zeus, grand Zeus, entends-nous, entends-nous, nous crions chez toi.
Ici Zeus, je suis absent pour l'instant, mais si vous me laissez un message, je vous rappellerai dès mon retour. Parlez après le bip sonore, merci.
Appelle dès que tu rentres, on a besoin d'aide.
Tout était fait à Dodone pour créer une atmosphère d'étrangeté et de plaisir. Le lieu était connu pour son chaudron de bronze. On parle parfois d'une série de chaudrons qui n'étaient pas muets. Ils se mettaient à résonner pendant longtemps à cause du vent. Le son n'était peut-être pas un signe prophétique interprété. Il s'agissait plutôt d'une musique protectrice qui écartait les mauvais esprits.
Il y avait dans le sanctuaire un chaudron de bronze avec une statue placée au-dessus qui tenait un fouet de bronze. C'était une offrande des gens de Corcyre. Le fouet était fait de trois lanières formées de mailles auxquelles étaient suspendus des osselets. S'il arrivait qu'il fût soulevé par les vents et vinsse frapper le chaudron de bronze sans discontinuer, il produisait un son si prolongé qu'on pouvait compter jusqu'à 400 quand on mesurait le temps du début jusqu'à la fin.
Ça devait être très beau, mais on traitait quelqu'un qui n'arrêtait pas de parler de chaudron de Dodone. Les gens venaient en foule, et par miracle ou quasi-miracle, on a conservé des milliers de questions qu'ils adressaient à Zeus. Les questionneurs du dieu les écrivaient sur des lamelles de plomb. Les prêtres donnaient la réponse, qui était écrite parfois sur le dos de la lamelle. Les consultants avaient l'habitude d'enterrer ces lamelles au pied du chêne sacré. Beaucoup ont été retrouvés. On peut lire.
Je demande si je dois me consacrer à l'agriculture.
Eumèle demande à Zeus Naios et à Diona et à Fortune au sujet du chêne qui se trouve dans le sanctuaire du héros, s'il peut favorablement l'arracher pour consacrer un temple sur place.
Cléanor consulte au sujet des descendants et héritiers du patrimoine qu'il attend de sa femme actuelle, Gonta.
Dieu, Fortune, Damosthénès demande à Zeus Naios à quel dieu ou déesse il pourrait sacrifier pour agir au mieux, et s'il ferait bien d'aller résider comme étranger à Calcis.
Dieu, Fortune, Cnéphas et Anagila demandent au dieu s'ils doivent chercher à l'emporter en justice sur cette femme qui est leur adversaire à propos du manteau.
Est-il préférable pour Darios de rester lié au traité avec les Grecs ? Question du messager de Darios, le roi.
Dois-je chercher une autre femme ?
Réponse de Zeus.
Chérir celle que tu as.
On ne sait pas comment toutes ces personnes ont réagi. La semaine prochaine, nous irons voir un autre sanctuaire consacré au dieu magnifique et inquiétant, Apollon, l'oracle de Delphes.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tessel. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. Bonne journée sur France Inter.